radio de la paix.
L'Afrique est l'un des points chauds de la biodiversité mondiale, mais elle fait face à une perte alarmante d'espèces. Plus de 10% des plantes et des animaux sur le continent sont menacés d'extinction locale. La déforestation, l'agriculture non durable et la surexploitation des ressources naturelles sont les principaux moteurs de cette dégradation. L'Afrique abrite plus de 4000 espèces de plantes utilisées à des fins médicinales. Ces plantes sont essentielles pour les populations locales, souvent en raison du coût élevé des soins médicaux modernes. Cependant, la documentation et la recherche sur ces plantes sont souvent insuffisantes, ce qui pose des risques d'utilisation incorrecte. Dans cette entrevue, il sera question de la santé des plantes. Veuillez vous présenter aux auditeurs.
Je m'appelle Saléo Niassi, je suis le coordinateur du Conseil phytosanitaire interafricain de l'Union africaine.
Alors, pouvez-vous définir ce que c'est que la santé des plantes et pourquoi elle est cruciale aujourd'hui dans l'agriculture durable?
Quand on parle de la santé des plantes, c'est plutôt dans le sens de la protection des végétaux. L'agriculture joue un rôle prépondérant dans toutes nos économies. Par conséquent, avec l'agriculture, on arrive à se nourrir, à trouver nos médicaments, également à vendre et à faire développer nos économies à travers les exportations et les importations. Donc cela fait que dans ce processus, il arrive que les plantes soient attaquées par des maladies et des ravageurs. Et il faut impérativement protéger l'introduction de ces ravageurs dans les pays et également protéger les plantes contre ces maladies et ces ravageurs. Et c'est la raison pour laquelle on parle maintenant de l'aspect phytosanitaire. Phytosanitaire, ça veut dire la santé des plantes.
Comment cette santé des plantes s'intègre dans la santé unique?
On identifie 4 grandes dimensions, à savoir la santé humaine, la santé environnementale, la santé animale et enfin la santé des plantes. Mais dans la définition globale de cette santé unique, on a tendance à négliger la santé végétale, c'est-à-dire la santé des plantes. Et c'est la raison pour laquelle il est important de rappeler à l'opinion que sans les plantes, il n'y a pas de vie. Parce que les plantes nous donnent de la nourriture, ils nous donnent de l'oxygène, ils nous donnent des habits, des produits, de la matière première. Tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un semblant de vie vient des plantes. Et c'est la raison pour laquelle dans cette définition de la santé unique, il faut nécessairement intégrer la santé des plantes.
Quelle est la politique régionale aujourd'hui, celle de l'Afrique par rapport à la protection des végétaux?
À l'Union africaine, nous avons un bureau qu'on appelle le Conseil phytosanitaire interafricain qui regroupe tous les pays membres de l'Union africaine à travers les directions de protection des végétaux dans chaque pays. Donc chaque pays est membre de facto, bien d'office, de ce Conseil phytosanitaire interafricain. Qu'est-ce que nous faisons? Tous les ans, nous nous rencontrons dans un pays africain et nous discutons sur les problèmes phytosanitaires en Afrique et dans le monde. Avec les ravageurs tels que les criquets pèlerins, tels que la chenille légionnaire, tels que les maladies telles que les cochenilles, la mouche des fruits. Donc les pays africains se rencontrent au niveau de ce conseil pour discuter quelles sont les mesures qu'ils doivent prendre pour lutter contre ces maladies-là, quels sont les standards, les normes internationales pour pouvoir éventuellement faire de sorte qu'ils augmentent leur productivité agricole, mais également faciliter un peu les exportations pour avoir plus d'argent pour les économies africaines. Donc ma présentation, c'était d'expliquer que l'Union africaine elle-même considère une agriculture durable qui ne compromet pas les ressources naturelles. Et cela veut dire que donc il faut regarder les choses sous l'angle d'une santé unique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la santé humaine sans tenir compte de la protection des végétaux. On ne peut pas parler, par exemple, de la santé animale sans prendre en compte comment on produit le fourrage, les pesticides qu'on utilise et tout cela. Donc, donner un peu une direction sur les politiques de l'Union africaine par rapport à cette thématique.
Quels sont les principaux défis que l'Afrique rencontre dans son écosystème?
L'Afrique a beaucoup de difficultés du point de vue agricole. Pour la simple et bonne raison que, d'abord, nous sommes un pays où on a plus de 50 États membres et chaque État à sa propre politique agricole. Ça, il faut déjà trouver des mécanismes pour harmoniser les façons de voir. Par exemple, l'homologation des pesticides. Il ne faut pas que chaque pays le fasse. Par exemple, lutter contre les maladies transfrontalières. Vous voyez, quand une maladie arrive en Côte d'Ivoire, cette maladie-là n'habite pas seulement en Côte d'Ivoire, elle peut aller au Ghana, elle peut aller dans des autres pays voisins. Donc, il faut que les pays arrivent à se concerter pour avoir une façon coordonnée des choses. Donc, ça, c'est un des défis de l'Afrique. L'autre défi, c'est que les pays africains ont des politiques. Et parfois, c'est des politiques obsolètes, c'est-à-dire des politiques des années 60. Et il faudra que ces politiques-là soient révisées et actualisées pour répondre aux défis actuels du monde. Et donc ça aussi, c'est un autre défi. Et l'Union africaine est là pour encadrer cela. L'autre défi, c'est que les changements climatiques, tantôt il pleut, tantôt il pleut pas. Et les changements climatiques s'accompagnent avec un réchauffement climatique. Et vous savez que les maladies et les insectes aiment des températures élevées. Quand les températures s'élèvent, vous avez les moustiques, vous avez les insectes, commencent à se multiplier plus. Et cela fait encore plus de dégâts. Et surtout que il n'y a pas assez de pluviométrie, donc ça affecte un peu la productivité agricole. L'autre défi, c'est aussi les gouvernements n'investissent pas beaucoup d'argent dans la culture, donc les fermiers sont livrés à eux-mêmes. L'autre, c'est aussi le fait que les fermiers n'ont pas accès aux connaissances directes pour leur permettre de faire une bonne agriculture. Les technologies sont là, mais les fermiers ne peuvent pas les acheter ou bien ne sont même pas au courant. Ça aussi, c'est un autre défi. Donc les défis sont multiples et plusieurs fronts de défis. Mais toujours est-il que cette façon de voir qui est plus ou moins holistique du système, c'est-à-dire comment combiner la santé animale, la santé humaine, la santé environnementale et la protection des végétaux ensemble, permet d'avoir de meilleures politiques qui sont beaucoup plus durables, de sorte qu'on peut produire, on peut faire de l'agriculture, de la production agricole, sans vraiment déranger notre environnement, sans empoisonner les gens, sans aussi empoisonner les animaux.
Quelles sont les principales maladies aujourd'hui des plantes sur le continent?
Tout dépend. Au niveau des plantes, nous avons d'abord la mouche des fruits qui s'attaque beaucoup aux fruits. Vous avez les criquets pèlerins qui sont extrêmement dévastateurs. Vous avez par exemple la chenille légionnaire d'automne qui est une maladie qui vient de l'Amérique du Sud, qui est entrée en Afrique en 2016 et qui a vraiment affecté le secteur du maïs, du mil, des céréales. Vous avez la maladie qu'on appelle Tuta absoluta, qui est aussi une maladie qui vient de l'Amérique du Sud, qui s'attaque à la tomate. Donc il y a une série, plus d'une dizaine vraiment de maladies ou bien de ravageurs qui préoccupent les pays africains. Et il y a des programmes au niveau mondial, mais au niveau même continental, où on essaie de s'occuper de ces ravageurs prioritaires.
Vous avez parlé d'obsolète, hein. Alors que fait l'Union africaine pour un éventuel changement dans des innovations?
Au fait, il y a beaucoup d'institutions, des centres de recherche. Vous avez par exemple CABI, vous avez par exemple l'IITA, vous avez par exemple Africa Rise. Tous ces centres de recherche et les universités comportent d'experts et des professeurs, des étudiants qui, chaque moment, découvrent des innovations qui peuvent être utilisées pour lutter contre ces insectes. Malheureusement, à cause de la fragmentation et, disons, les différentes politiques agricoles, ces innovations parfois sont bloquées dans un pays ou bien dans une région et n'arrivent pas dans d'autres régions. Donc la politique de l'Union africaine, c'est effectivement de faire de sorte qu'on peut mutualiser ses connaissances et ses ressources, et même l'expertise. Quand vous avez des experts qui sont là, qui ont des talents, peuvent amener leur expertise dans une autre région, de sorte qu'à pouvoir avoir un système harmonisé pour l'Union africaine. Nous sommes l'Union africaine. Nous faisons la promotion de l'unité africaine sur tous les plans. Voilà. Donc, nous avons ces systèmes-là qui sont là et nous avons des réunions techniques pour en fait amener tout le monde sur la même table et discuter des défis ensemble.
La situation des plantes en Afrique, vous l'avez dit, est complexe, marquée par une richesse biologique inestimable, mais également par des menaces significatives. Quelles sont les attentes de l'Union africaine et ses partenaires dans la protection des végétaux?
Les attentes, c'est de voir vraiment que tous les partenaires, toutes les parties prenantes, harmoniser un peu leur position pour qu'ensemble, qu'on collabore, qu'on réussisse, mais qu'on fasse des projets ensemble afin de promouvoir cette santé unique. Parce que nous avons différentes expertises. Nous avons des vétérinaires, nous avons des spécialistes dans des domaines divers, mais arriver à coordonner de sorte qu'on puisse arriver à atteindre nos objectifs. Nous attendons que les gouvernants s'impliquent davantage dans le secteur agricole et particulièrement dans la protection des végétaux. Vous savez, aujourd'hui, le continent africain fait face à plusieurs défis. Vous entendez de temps en autre, on parle de guerre, on parle de problèmes politiques, de déplacements de réfugiés. La source de tous ces problèmes, c'est qu'on n'en prend pas en charge assez l'agriculture et les plantes. Si on pratique l'agriculture et on arrive à nourrir les gens, à créer une économie autour de l'agriculture, cela va directement avoir des implications sur les problèmes de guerre, les problèmes d'emploi des jeunes, les problèmes d'immigration, les problèmes politiques vont être résolus en même temps, rien qu'en s'occupant des plantes. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à voir cette connexion entre le développement agricole, la santé des plantes, et le reste des domaines politiques. C'est tout un système qui est connecté par une seule chose, c'est-à-dire la santé des plantes. C'est la santé des plantes qui permet de nous nourrir, de créer de l'oxygène. Quand on parle d'agriculture durable, des changements climatiques, c'est parce que nous n'avons plus de plantes sur la planète. Et donc, les gouvernements doivent prendre en conscience cette situation pour renverser cette politique et donner beaucoup plus de ponts, de points pour la politique sur la santé des plantes. La communication, la sensibilisation, le plaidoyer et le lobby, voilà. Parce que les autorités qui sont là, les ambassades, vous avez des ambassadeurs, vous avez des grands dignitaires qui sont là. Bon, s'ils sont là à cette conférence en écoutant, ils se disent tiens, donc les plantes sont importantes. Donc toute la guerre là dont on parle là, c'est parce que les gens ne mangent pas. Les gens veulent faire la guerre mais ils ont faim. Donc ce n'est pratiquement pas des êtres humains. Il faut d'abord qu'on investisse beaucoup plus dans l'agriculture. Voilà, former beaucoup plus les gens dans l'agriculture.
Merci infiniment.
Merci.
Environ 20% de la surface terrestre de l'Afrique est déjà dégradée, ce qui affecte gravement les écosystèmes et la qualité des sols, impactant ainsi la production agricole. En matière de biotechnologie, l'Afrique du Sud est actuellement le seul pays à cultiver des plantes génétiquement modifiables OGM, principalement du coton et du maïs. Bien que ces cultures puissent offrir des avantages en termes de rendement et de résistance aux parasites, leur adoption reste limitée dans d'autres pays africains en raison de préoccupations liées à la biodiversité, à l'accessibilité sociale et aux conflits armés. La promotion des plantes oubliées et la valorisation des connaissances traditionnelles sur les plantes médicinales peuvent constituer des voies prometteuses pour renforcer la sécurité alimentaire et préserver la biodiversité sur le continent.
C'était l'entrevue
Radio de la Paix.